chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche, Cases et Bulles, où je retrouve enfin notre ami Christol Sehec, voilà, que j'avais mis au régime sec, faute de bien m'organiser. Et nous allons aujourd'hui parler de plusieurs bandes dessinées, et notamment ce qu'on fait rarement, de bandes dessinées qui ne sont pas absolument remarquables. Pourquoi ? Ben parce que, justement, pour vous expliquer pourquoi on n'en parle pas souvent. Alors, la première bande dessinée, je parle, et donc, bonjour Christol.
Bonjour Richard.
Ouais, voilà. La première bande dessinée, c'est Docteur Poche, Les Jardins d'Alice aux éditions Anspach. J'aime beaucoup les éditions Anspach. Elles rééditent de bonnes bandes dessinées, elles vont chercher de nouveaux auteurs, elles ont une programmation intelligente et originale, mais elles sont allées chercher Vasterlin. Vasterlin, pour ceux qui s'en souviennent, c'était l'un des auteurs pas phares, mais connus de Dupuis au siècle dernier, avec notamment son personnage tout à fait farfelu de Docteur Poche, qui est un médecin qui achète un jour un manteau qui se retrouve être un manteau magique. C'était des aventures un peu farfelues, un peu horrifiques, comme du roman gothique anglais, mais tempéré évidemment par le côté école de Marc Sinel. Et là, le charme est complètement enfui, le dessin est toujours là, l'univers est toujours là. D'abord, il y a une espèce de parfum wokiste particulièrement exaspérant qui règne là-dessus. Et on sent que Vasterlin, en vieillissant, s'est transformé, comme beaucoup, en une prétendue vieux sage qui est là pour nous distribuer des leçons, somme toute oiseuses, sur ce que doit être le monde et la planète. Et il phagocyte pour ça, notamment l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. C'est en fait un vrai dépit. On aurait été ravis de retrouver le docteur Poche, son trait à la fois anguleux mais pas dur. Donc il y a un vrai talent chez Vasterlin. Il est presque intact dans le dessin. Il est vraiment évanoui pour ce qui est du scénario. Voilà. Donc ça me fait plaisir. Je l'ai expédié. Un autre album aussi sur lequel c'est une véritable déception, c'est Rhino de Yann et Julien Caen. Alors Julien Caen est notamment le dessinateur talentueux de Eagle, l'aigle à deux têtes. Et Yann, on en a déjà parlé 74 fois, donc je ne vais pas vous le représenter. Et là, il s'agit une fois de plus d'une histoire d'aviation, il s'agit une fois de plus de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit une fois de plus de deux frères. Donc on commence à se dire, ça y est, c'est un peu saoulant. Alors les combats aériens sont très chouettes. Vous savez, on se retrouve comme dans ces critiques de jeux vidéo qui, à un moment donné, à force d'avoir exactement la même chose à dire, finissaient par rédiger des critiques en disant le rendu des fumées, des pots d'échappement est très net, ou bien on a véritablement une progression dans la simulation des décibels d'une brusque accélération. Et voilà. Donc, autrement dit, le jeu n'a aucune originalité. Et là, c'est la même chose. Donc, bien sûr, il y a quelques pages qui sont amusantes. À côté de ça, c'est pénible à souhait, même si le thème était évidemment intéressant, puisque l'album s'appelle Rhino, donc c'est le surnom d'un des deux héros qui sont deux frères nazis, tous les deux aviateurs, et Rhino est en fait en permanence drogué à la pervitine, qui était l'une des amphétamines utilisées par les soldats allemands. Mais voilà, c'est du tout vu, c'est du tout cuit, c'est du tout ennuyeux, c'est le tome 1, on verra bien pour le tome 2. Voilà, donc c'était mon pur plaisir de vous expliquer pourquoi en fait on lit énormément de bandes dessinées et pourquoi on ne vous parle pas de toutes, parce que de temps en temps, franchement, ça vaut pas tripette. Christol, toi, heureusement, tu arrives avec une bande dessinée bien meilleure, mais là aussi, il y a des nuances, mais on va les apporter, qui est le bel album d'hommage rendu à Blueberry pour les 60 ans d'apparition du Cowboy.
Merci Richard. Si je peux me permettre, l'avantage de ces bandes dessinées très décevantes, c'est pas de les lire... C'est d'écouter ton compte-rendu sur Radio Courtoisie, où on rigole bien tous en t'écoutant démolir ce qui mérite d'être démoli. Mais effectivement, j'ai lu Rhino, je partage ta déception. Alors, sur la piste de Blueberry, c'est un album qui est sorti, je dirais, fin novembre à peu près. Les albums présentés souvent avant Noël pour qu'on l'offre sous le sapin. Et ça valait le coup de l'offrir sous le sapin à ceux qui admirent la série Blueberry. On peut s'en passer, c'est vrai, mais ceux qui admirent la série, c'est un peu comme si on découvrait des chansons jamais inédites des Beatles, les passionnés seraient contents de la découvrir, même si c'est pas les meilleurs. Eh bien, c'est un peu l'effet de l'album sur la piste de Blueberry. Alors, Blueberry, il faut rappeler que c'est quand même l'un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée de Western. C'est sans doute le plus connu de western dans la BD franco-belge, sans doute parce que les deux créateurs, ce sont des monstres de la bande dessinée. C'était à ma droite, et je le dis exprès, Jean-Michel Charlier, créateur de Surcouf, Buck Denny, Les belles histoires de l'Anglepole, La patrouille des Gastors, Aventure, les auteurs de Tanguy, Barbe Rouge, énormément de titres qu'on pouvait lire à tout âge, qui étaient très plaisants. Et quand on sait que Jean-Michel Charlier avait connu dans sa jeunesse une éducation chez les jésuites et découvert le scoutisme qu'il adorait, on se dit qu'on ne peut pas être déçu de ces scénarios. À ma gauche maintenant, et je le dis exprès, c'est Jean Giraud. Jean Giraud, pseudonyme Moebius pour ses récits de science-fiction, est un très grand dessinateur, mais c'est plutôt de l'autre bord, lui, qu'il pensait. Quelques petites anecdotes croustillantes. En mai 68, il avait créé dans un bar parisien le tribunal du peuple pour juger René Goscinny, accusé d'être le valet des patrons. En 78, il s'est enfui plusieurs mois dans une secte à Tahiti. Pendant 7 ans, 7 ans dans une secte à Tahiti, plutôt de gauche, donc assez étrange. Et en 82, il faut quand même rappeler que cet ami de Jack Lang a reçu de sa part le titre de meilleur artiste des arts graphiques des mains de Jack Lang, n'est-ce pas? Donc j'en dirai pas plus, mais si ce n'est qu'on va oublier ses idées pour se souvenir que c'était un excellent dessinateur. Et donc il nous a quittés en 2012, Jean Giraud, et la série Blueberry continue petit à petit par des repreneurs à survivre, si ce n'est que l'album le plus intéressant, c'est cet hommage, comme tu le dis. Richard, c'est un hommage rendu par une trentaine de scénaristes-dessinateurs qui sont parmi les plus doués actuellement de la BD franco-belge. Et parmi ces petits récits courts, certains ont peu d'intérêt, mais d'autres sont assez croustillants. Je retiendrai celui scénarisé par Vincent Brugéas, qui montre Blueberry empêcher l'assassinat d'un officier Yankee, qui est assez amusant. Enrico Marini, très connu comme dessinateur, qui raconte une nouvelle aventure entre Blueberry et la belle Chihuahua Pearl. C'était pas étonnant parce que Marini adore dessiner les jeunes filles. Et ma préférée, c'est Jérémy Félix et Paul Gastine, qui racontent une histoire de poker truculente où Blueberry croit que l'un des joueurs, ses amis, est mort alors qu'il ne fait que dormir. Bon, c'est de l'humour, mais ça a bien sa place dans Blueberry.
Et
Tu l'avais lu, Richard, l'album ou?
l'album d'hommage, non. Ce que
Non.
j'ai relu à l'époque, c'est enfin, au moment où sortait cet album d'hommage, c'était la réédition en fac-similé de l'aventure telle qu'elle était parue dans Pilote en feuilleton et non pas en album. C'est
T'en
l'une
avais joué.
voilà, c'est l'une des modes des éditeurs. Alors au début, on trouve que c'est un peu pipeau parce que voilà, il y a ce côté on fait du neuf avec l'ancien, mais il faut dire que la plupart du temps, c'est intéressant. On sait qu'avec Tintin, il y avait parfois des remaniements sévères. Et ce qui est amusant avec Blueberry, Spirou et Fantasio ou d'autres comme Jacobs, c'est le fait de retrouver, en fait, et là, ils y arrivent, les couleurs originales et de se rendre compte de la distance qu'il y a entre ce que je découvre dans mon hebdomadaire et ensuite la lecture qu'on peut en avoir en album, surtout quand l'album a été imprimé et réimprimé et qu'on se retrouve avec des papiers différents. Il y a vraiment l'environnement coloriel est modifié et donc le regard qu'on porte sur la bande dessinée est quand même transformé. Voilà. Sinon, Blueberry, j'avoue en fait que j'y suis venu assez tard. J'étais pas extrêmement séduit quand j'étais petit par Blueberry parce que voilà, il y avait disons que l'univers du western, c'était pas exactement ce qui m'amusait, à part Lucky Luke. Et en plus, il y avait chez Charlier une espèce de densité incroyable des planches. C'était vraiment quelqu'un qui était généreux en dialogue et avec parfois aussi ce qui était rarement l'habitude à l'époque, les diptyques et même les triptyques, autrement dit de longues aventures. Voilà. Donc quand j'ai commencé petit, Charlier n'était pas, enfin pas Charlier, mais les albums de Blueberry ne faisaient pas partie de mon petit panthéon. Voilà. Mais après, bien sûr, j'y suis venu et je me suis agenouillé une fois de plus devant la statue du dieu Charlier. On va marquer une courte pause et vous rappeler que, bien sûr, Radio Courtoisie est une radio culturelle importante, une radio qui compte dans le paysage français, et une radio d'ailleurs qui a de bonnes audiences, mais que cette performance ne peut s'établir que grâce à vous, grâce à vos dons. Je ne sais même pas si on a besoin d'un bobino, d'ailleurs, je viens de vous faire l'article, on est effectivement en train de tendre la main. Alors les gens trouvent qu'on tend la main un peu trop souvent, ben, non en fait, parce que si Radio Courtoisie a envie de se maintenir et surtout de se développer auprès des jeunes générations, eh bien il faut faire plusieurs efforts qu'on n'avait pas l'habitude de faire parce qu'on n'en avait pas besoin. Maintenant, il y a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux, où il y a aussi le réveil du peuple de droite qui préfère parfois écouter CNews plutôt que d'écouter Radio Courtoisie. Et donc on est obligé d'agiter nos petits bras. On va enchaîner donc très tranquillement avec une autre bande dessinée où on va aller super vite, c'est Rue de la Grande Truanderie, La Mort de l'Utopie aux éditions Grand Angle. Et bien voilà, c'est une bande dessinée où que vous pouvez acheter uniquement si vous avez envie de lire 4 doubles pages. Voilà. L'histoire est à moitié ratée, où on essaye à la fois de parler d'utopie, de monde ouvrier, d'hypnotisme, de mélanger plusieurs univers 19e siècle. Et la synthèse est ratée. C'est dommage parce que le scénariste est l'excellent Morvan, qui, par exemple, à qui on doit Madeleine Résistante et d'autres bons albums. Et bien là, sa tentative de roulement un peu à la Gaston Leroux, façon Rouletabille, eh bien, franchement, c'est raté. Façon Rouletabille, ou plutôt La Poupée Sanglante, d'ailleurs, si on devait trouver des équivalents avec l'œuvre de Gaston Leroux. Il y a une première planche où on voit l'intérieur du phalanstère Godin. Très belle planche. Le dessinateur est réputé avoir fait des études d'architecture. Une autre vue absolument magnifique de Paris, les vieux quartiers 19e avec une espèce de cour des miracles remarquable, là aussi, en perspective aérienne. Très, très jolie, une planche remarquable avec l'ensemble des cases totalement déstructurées et qui ressemble à autant de clichés pris par un reporter au 19e, donc vers 1850-1860, dans le monde des Apaches de ce qu'on n'appelait pas à l'époque les bidonvilles, et avec évidemment cette petite mise en abîme assez intelligente pour vous consoler de voir à quel point vous vous déshumanisez. Tout est bon, alcool, opium, morphine, éther. Je ne vous raconte pas dans le détail tout ce que j'ai vu. De toute façon, vous ne pourriez pas vous en faire une image mentale. Et évidemment, lecteur a un avantage immense à la personne à qui on est en train de raconter cette histoire, c'est que lui voit les scènes. Nous n'avons pas besoin de nous en faire une image mentale, nous avons les véritables images déstructurées avec toutes ces horreurs qui sont étalées. Et enfin, dernière image, elle aussi, jolie perspective cavalière, on a l'impression de se retrouver dans certains tableaux 19e ou bien cette magnifique collection des chartreuses en Europe qu'on peut admirer à la Grande Chartreuse, avec des perspectives où toutes les chartreuses sont peintes les unes après les autres, et là qui représente le phalanstère et la ville à côté. Voilà. Et bien, à part ça, l'histoire n'a rigoureusement aucun intérêt, et donc on va l'abandonner très vite. Parmi les choses qu'on voulait se dire, mais pas aussi vite, mais c'est l'album Nouvelle France dont tu vas nous parler à présent, et je crois qu'on peut s'étaler un petit peu.
Alors, je te remercie de me laisser un petit peu plus de temps, parce que toi, tu mènes des analyses tambour battant. Alors, Nouvelle France, c'est édité aux éditions Daniel Maguin, et effectivement c'est un signe souvent de qualité au moins artistique. Le scénario parfois c'est pas aussi vrai, et cet éditeur est connu pour avoir édité dans le domaine des dessins sur les Indiens toutes les bandes dessinées du dessinateur Prugne, je crois qu'il s'appelle comme ça, et c'était chef-d'œuvre après chef-d'œuvre, de magnifiques albums des années 2000, je dirais. Et là, Nouvelle France, ça m'intéressait pour cette raison. D'autant que ça décrit la Nouvelle-France pendant la guerre de Sept Ans, c'est-à-dire c'est la fin de l'Empire français, si on peut l'appeler ainsi, en Amérique du Nord, le premier empire colonial français, et c'est toujours avec bonheur qu'on découvre qu'on est allé jusque là-bas. C'est un récit fictif dans un cadre historique, mais le cadre historique est quand même très loin du récit, c'est vraiment en toile de fond. Le récit fictif, bon, c'est l'histoire un peu classique d'un Français qui vit avec une tribu Shawnee, qui finit par épouser l'une de ces jeunes femmes indiennes, jeune, jolie, mais fragile et malade. Elle meurt rapidement après avoir laissé un enfant. Et bien là, on est rendu qu'à la planche numéro 3 ou 4. Tout ça va très, très vite. Et après, il y a de longues pages où on découvre que notre héros, qui s'appelle Pierre l'Archange, va aider les Français pendant la guerre, va emprisonner un Indien. Et toute la suite de Russie, ça va être la vengeance de cet Indien qui va essayer de tuer notre héros, Pierre l'Archange. Bon. Avec en toile de fond, encore une fois, la guerre de 7 ans et la volonté de certains Anglais de devenir autonomistes, indépendants au fil des pages. Bon, c'est dommage parce que c'est un album qui est assez long, ça fait 120 pages. Il y avait de quoi creuser davantage la thématique historique en toile de fond et il y avait de quoi améliorer le récit où, à mon avis, c'est un signe, on s'attache peu au personnage. L'un des signes révélateurs dans le monde de la bande dessinée, c'est que si à la page 12, le héros prend une balle et meurt, est-ce que ça nous indiffère ou est-ce qu'on se sent attristé? Là, ça nous indiffère. Donc, la sauce n'a pas pris, on n'est pas attiré par le personnage. C'est le deuxième défaut, le premier étant qu'on est un peu loin du cadre historique. Par contre, le dessin, j'aime vraiment ce dessin. Alors, le scénariste, c'était Stéphane Desberg. Il est très connu pour la série IRS. Il faut noter que c'est un Américain. Son père était un soldat américain qui, en 45, rencontre sa mère, une Française, qui donnait des cours de français à la Sorbonne. Ils se marient. Ils ont un enfant, le petit Stéphane Desberg, qui est élevé par son père américain qui diffuse les films américains au Benelux. Et donc, Stéphane, passionné de cinéma, passionné de dessin, va y consacrer sa vie de scénariste avec beaucoup d'albums consacrés à l'histoire des États-Unis, dont cette dernière œuvre, Nouvelle-France. Et le dessinateur est également un Belge, Bernard Franken, qui est un adepte de ce scénariste puisqu'ils ont créé de nombreux titres, dont la série IRS. Alors, à titre personnel, je préfère ce dessin-là à celui qui nous avait habitués dans la série IRS, sans doute parce que pour la première fois, Bernard Franken s'est adonné à la couleur directe. Je pense que moi, je trouve que les couleurs sont très, très belles. J'aime bien son trait déjà. C'est un trait assez nerveux. Parfois, on voit des personnages au loin en ombre chinoise. Le trait est réussi, il me plaît beaucoup, dans des pages aérées, puisqu'à 128 pages. Et la couleur directe, à base de bleu, de gris, de sépia, eh bien, c'est la première fois qu'il s'y attache et c'est une grande réussite à mes yeux. Donc, ceux qui aiment vraiment la bande dessinée en tant qu'art graphique peuvent, pour le plaisir des yeux, parcourir les planches. Ceux qui préfèrent les scénarios, eh bien, j'en suis assez déçu. C'est-à-dire, si le scénario avait été au niveau des planches du dessin, je dirais qu'on a égalé, tiens-toi bien, Richard, Forwheeling de Hugo Pratt.
Wow.
Là, je vais loin, mais
Eh oui. Là, j'ai cru que tu
il
allais
faut bien.
dire l'épervier de Pèlerin, donc j'avais rassemblé mes énergies pour supporter le choc, mais bon, Fort
Non.
Wheeling, c'est un peu moins mon panthéon aussi.
Et ceux qui apprécient vraiment les planches, ils peuvent aller à la galerie Daniel Mengen, située rue du Louvre, du 18 février au 14 mars pour observer ces magnifiques planches. Et on va peut-être pas leur dire d'acheter une planche à 3 000 euros plutôt que de faire un chèque à du courtoisie.
Oui, effectivement. Bah, si vraiment vous avez de l'argent à dépenser dans la bande dessinée de luxe, si vraiment vous êtes un mécène des arts, par exemple, faites en sorte que Marie-Christine Lainier puisse continuer à faire de véritables émissions absolument enthousiasmantes sur la culture que vous n'écouterez absolument nulle part ailleurs. Revenons un tout petit peu sur la galerie Daniel Mengen. C'est vraiment un marchand qui a d'ailleurs vraiment mis en place le marché de la bande dessinée en salle des ventes. Il s'était associé avec Arturial, si je ne m'abuse, et maintenant il fait ça tout seul. Et il a un goût prononcé pour ceux qui ont un dessin séduisant, un dessin décoratif, avec parfois des choix d'auteurs qu'il n'édite pas lui-même. Je me souviens notamment d'une bande dessinée sur la guerre de Sécession qui était l'adaptation d'un roman de Stephen Crane et qui était vraiment excellente. Et parfois, on sent qu'il suscite presque des albums pour le plaisir d'avoir ces magnifiques planches. Vous savez que les planches, évidemment, sont réduite au moment de l'impression, et donc là vous les avez les planches grandeur nature, vous pouvez mettre le nez dessus et voir comment c'est fait, comme on dirait. Et il y a chez lui malgré tout une espèce d'inflation décorative et de biais décoratif, ce qui fait que il choisit des auteurs qui sont capables de vraiment d'utiliser la planche et d'avoir quelque chose de très narratif, en même temps voilà, de très pictorial, de très décoratif, parfois un peu quand même malgré tout au détriment d'un vrai scénario. Et notamment voilà, je me souviens avec enthousiasme de l'Enfer de Dante des frères Brizzi, je vais dire si ça se trouve je me trompe, donc c'est deux frères franco-italiens et, qui depuis ont un peu tiré sur la corde et sorti tout un tas d'albums, et on sent à chaque fois que il y a l'idée que les planches vont finir sur les murs de Daniel Magan. Malgré tout, voilà, c'est un bon éditeur, il a du flair et sa galerie est intéressante à visiter puisqu'il y a les expositions, mais sinon il y a tout un tas d'autres planches. Bah, c'est gratuit en plus, de nos jours ce n'est pas absolument négligeable, donc n'hésitez pas, rue du Louvre, la galerie Daniel Magan. On va finir par un dernier album qui s'appelle « J'ai arrêté Otto Abetz ». Alors Otto Abetz, c'est l'ambassadeur d'Hitler en France, et c'est une histoire qui m'a absolument intéressé, et en même temps c'est un album dans lequel j'ai eu un peu de mal à rentrer. J'ai eu un peu de mal à rentrer parce que le dessin n'est pas mauvais, mais il n'est pas remarquable. L'auteur s'essaye à deux ou trois pages un peu onirique. Bon, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Joachim Esaac, juif allemand qui est chassé de l'Allemagne par ce qui se passe, et donc il préfère venir se réfugier en France en 1933, qui évidemment se retrouve en tant qu'Allemand interné, en tant qu'indésirable, qui sort, grâce à Dieu, de ce camp d'internement et s'engage dans la résistance, et qui en 1944-45, et surtout 45, se retrouve en Allemagne occupée désormais, en train de chasser les werewolves, autrement dit les loups-garous, les résistants nazis, et notamment il est acharné à retrouver la trace d'Otto Abetz. Alors, il y a 74 personnes dans la famille de Joachim Esaac avant la guerre. Sur ces 74 personnes, 21 personnes ont été assassinées par les nazis, 42 personnes ont été contraintes à l'exil et 11 personnes, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. On comprend que Joachim Esaac était assez enclin, en tant qu'adjudant, était assez enclin à chercher Otto Abetz, qui avait, entre autres détails, spolié énormément des biens juifs en France. L'histoire est intéressante, c'est ça mélange un peu la chronique familiale avec la manière dont il retrouve sa femme et ses enfants, dont il a été séparé en partie pendant la résistance, dont ils sont installés en Allemagne, et surtout, quelque chose est absolument fascinant, c'est que Salomon Esaac se fait appeler Richard Esaac, et donc il a francisé son nom, EZAC, et à la sortie de la guerre, une fois Abetz arrêté, il va attendre longtemps pour être naturalisé, il faudra attendre 1950, sa personnalité déplaît, et donc on lui concède enfin cette naturalisation, mais on ne lui permettra jamais d'adopter la forme francisée de son nom. Et Esaac est tellement dépité qu'il repart pour l'Allemagne. Voilà quelqu'un qui a été obligé de fuir l'Allemagne et qui y retourne pour y vendre des tapis. Il abandonne sa femme et ses enfants en France, ils sont devenus parfaitement français, et le voilà qui part et qui, d'Allemagne, assistera à la manière dont Otto Abetz est peu à peu gracié, c'est-à-dire Otto Abetz qui est condamné à 20 ans de prison, en fera à peine 8, il revient en Allemagne et il est, il redevient un citoyen allemand normal. Et Esaac, je crois, en mourra de dépit et d'amertume. C'est un destin absolument étrange. J'ai vraiment trouvé que c'était kafkaïen. J'avais l'impression de lire Le Château, vous savez, avec ce personnage qui essaye de tout faire dans les règles et qui, malgré tout, a en face de lui un monument de bureaucratie hostile. Et Esaac, comme ça, vis-à-vis de la France, à qui il a donné du temps, à qui il a donné de l'énergie, à qui il était prêt à donner sa vie, et se retrouve à considérer, en fait, que la France est devenue une marâtre, et faute de cette naturalisation si lente et faute de cette francisation impossible de son nom, préfère repartir en Allemagne comme si rien ne s'était passé, avec en plus finis coronato pus, cette amertume supplémentaire de voir que Abetz, ce chien, a été gracié et donc gracié par le président Coty, et donc de se rendre compte en fait que la puissance de la diplomatie, évidemment, réduit à néant ce qui a été l'aventure de sa vie. Et il y a quelque chose de terrible. Son petit-fils raconte cette histoire. Il en a fait un livre, il en a fait un dossier qu'il est allé déposer chez Yad Vashem pour saluer la mémoire de son grand-père. Et vraiment, je vous conseille. J'ai arrêté Otto Abetz aux éditions de La Cité Graphique, et en fait, les presses de la Cité, le département bande dessinée des presses de la Cité. C'est coédité avec le ministère des Armées. C'est un travail très solide. Comme d'habitude, et maintenant, dans la plupart de ces bandes dessinées historiques, il y a un gros dossier à la fin qui permet d'avoir de se rendre compte que le dessinateur a particulièrement bien saisi les attitudes des actes et sa physionomie. Et ensuite, on rentre dans l'histoire de cette traque et la manière dont ensuite ça va évoluer. Et donc, la traque, en fait, n'est qu'un épisode de la vie d'Ésaac. Et ce sont les dernières pages où en fait, cette vie devient presque inutile. Alors, une fois plus, c'est les toutes dernières pages, les deux ou trois dernières pages, 4-5, allez, on va dire, de la bande dessinée où on se rend compte de cette amertume. Mais le dossier est particulièrement éclairant. Bon, c'est un destin, une fois plus, kafkaïen, je tiens à le dire, et une bande dessinée, 104 pages, un peu plus de 20 euros, dans laquelle on ne rentre pas immédiatement, elle n'est pas immédiatement aimable. Mais voilà, prenez le temps de la lire et de vous en inspirer. Voilà, j'ai été beaucoup trop long, je suis désolé. Merci mille fois à Christol d'avoir été avec moi. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir... Il paraît qu'on ne doit pas dire chers auditeurs, que ça fait complètement ringue. Il faut que je me corrige. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et bien sûr, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Planche, Case, Zébule.